Octave Mirbeau, des artistes, le chemin de la croix. Chaque fois que j'apprends qu'un artiste que j'aime, qu'un écrivain que j'admire, vienne d'être décoré, j'éprouve un sentiment pénible, et je me dis aussitôt « quel dommage !» C'est comme une atteinte portée à mon affection et à mon admiration. Les cultes que nous élevons à l'art sont aussi exclusifs et jaloux que ceux que nous élevons à l'amour. Ils comportent autant de susceptibilités ombrageuses, promptes à s'effaroucher et qui mènent vite à la désillusion, car ce que l'on aime en eux, surtout, c'est le rêve de beauté immaculée qu'ils nous versent. Or, ce petit bout de ruban, déteint à toutes les ordures qu'il a touchées, suffit presque à faire s'envoler ce rêve. Figurez-vous que vous avez rencontré un jour une femme pareille aux visions des poètes. À la regarder, votre cœur s'attendrit, votre imagination s'exalte. Mille pensées remuent en vous, délicieuses, et vous voilà parti dans un songe illuminé par cette douce figure d'ange. Et puis, le lendemain, vous la revoyez dans un bouge, ivre, dépeigné sur les genoux d'un rustre. Ça n'est pas douloureux, mais ça vous laisse du regret. Eh bien, c'est un peu cette sensation que j'éprouve. Et puis, maintenant, je ne peux m'empêcher de voir la longue file des légionnaires passer devant mes yeux. La longue file des épiciers louches, des douteux pharmaciens, de tous les vaniteux grotesques, conduits à l'honneur par des escrocs et de vieilles déclassées, telles enfin que, dans leurs stupéfiantes caricatures, nous les ont révélées les récentes aventures élyséennes. Ainsi, les voilà donc, les chercheurs de lignes, les pétrisseurs de formes, les dompteurs de vie, les voilà, semblables aux vendeurs de saumure, comme dit Flaubert, et placés sur le même pavois de vanité que les spécialistes dont les noms et les recettes hantent l'ammoniacale et confidente pénombre des réduits vespasiens. Quelle pitié! Et chacun sait tellement ce que vaut l'aune de ce ruban banal, comme il se mettre, se soumettre et se périmettre, en dehors même des agences, que le premier venu peut en prendre aujourd'hui à la taille de sa boutonnière, au moyen d'une obstination modérée et de quelques démarches faciles. On s'étonne même que les grands magasins n'en tiennent pas comptoir, que certains journaux ne l'offrent pas en prime à leurs abonnés, ayant soin d'en diversifier la longueur et la forme d'après la durée de l'abonnement, et que, dans les rues, sous les portes cochères, de faux estropiés ne le débitent le long d'une baguette entre des chaînes de sûreté pour deux sous. Riez de ma naïveté. Mais j'en suis encore à m'étonner qu'un artiste vraiment artiste, qu'un écrivain vraiment écrivain, mette tant d'âpreté et se laisse souvent entraîner à tant d'intrigues pour conquérir cette croix qui n'est plus bonne qu'à servir de hochet réclame entre les mâchoires automatiques des dentistes américains. Et je me demande sincèrement ce que cela peut bien leur faire et quelle satisfaction ils en tirent. Tenez, nous avons un artiste grandissime, Auguste Rodin. Connu de quelques amis seulement, il y a 10 ans, le succès lui vient aujourd'hui, et demain, la gloire l'attend. Et cette gloire sera en même temps une justice, car Rodin aura été vraiment le sculpteur de ce siècle. Aussi magnifique ouvrier que Barry, plus sensitif, plus poète, plus créateur que lui, il est le premier qui aura fait chanter et pleurer au marbre et au bronze tous les poèmes de passion, tous les drames de l'âme humaine. Et on le décore. Qu'est-ce que la croix d'honneur a de commun avec un génie tel que celui de Rodin? Pourquoi lui et pas un de ces jolis médiocres comme il y en a tant, épousteurs de plâtre et barboteurs de terre, qui avaient, ce semble, bien besoin de cela pour écouler leur petit moulage. L'artiste est un être privilégié par la qualité intellectuelle de ses jouissances et par ses souffrances elles-mêmes, où il arrache l'effort nécessaire à l'enfantement de son œuvre. Plus directement que les autres hommes en communication avec la nature, il voit, découvre, comprend, dans l'infini frémissement de la vie, des choses que les autres ne verront, ne découvriront, ne comprendront jamais. Ses yeux, sa pensée ont de continuels émerveillements. Ils ont aussi de continuelles désespérances. Devant le mystère qu'est le frisson de la vie, et qu'il est impossible d'étreindre complètement pour le fixer en un verre, sur une toile, dans du marbre, devant cette grâce, cette fantaisie, cette sensibilité sans cesse renaissante, devant cette palpitation qui monte de la fleur menue et de l'humble brin d'herbe, le plus triomphant des artistes, même un Shakespeare, même un Velasquez, même un Rodin, se sent bien petit et bien impuissant. Les plus admirables, ceux qui ont approché le plus près du secret que la nature recèle, ont été aussi les plus modestes. C'est que la réalisation a toujours été impérieuse au rêve, et c'est le rêve qu'ils poursuivent. De là leurs tortures, et de là leurs efforts, chaque jour plus poussés d'élan. Et c'est avec un bout de ruban, ce ruban qui traîne dans les tiroirs des agents d'affaires véreux et qui vient rouler jusque sur les bancs des polices correctionnelles, qu'on voudrait consoler les artistes et les encourager, quand le caractère même de leurs préoccupations semble devoir les sauvegarder de ces vanités puériles et basses. Mais, ministres entêtés que vous êtes, vous avez des places publiques à orner, des monuments à bâtir, des murs à couvrir de peinture. Donnez des travaux au lieu de croix. Utilisez le génie d'un Rodin assez vaste pour donner à ce siècle une impérissable gloire, au lieu de lui décerner d'illusoires récompenses, pareilles à celles dont vous accablez les fabricants de caoutchouc et les courtiers électoraux. Monsieur Turquet, qui n'était point, paraît-il, un homme supérieur, avait néanmoins compris l'inutilité des décorations aux artistes. Voici comment la chose arriva. C'était à l'exposition des œuvres de François Bonvin, organisée il y a 2 ans, dans une galerie de la rue Scribe. Le pauvre vieil artiste était déjà malade du mal qui devait l'emporter. Je le revois encore, le brave père Bonvin, avec son large chapeau, sa large redingote d'instituteur et sa figure spirituelle et malicieuse que grippait la paralysie commençante. Il était heureux de se retrouver au milieu de ses tableaux, si heureux que les larmes lui coulaient des yeux. « C'est bête, me disait-il, de pleurer comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont mes enfants, après tout. Et il y en a là que je n'ai pas revus depuis 30 ans. » Monsieur Turquet vint à passer, solennel, comme une commission, et plus bureaucratique à lui seul que tout un ministère. Quelqu'un l'avait averti que c'était très bien, et il longeait les murs d'un air connaisseur, s'arrêtant parfois devant une toile. « Joli ton, disait-il. Nous l'aperçûmes qui, plus loin, traçait dans l'air avec son doigt des ronds isolateurs, comme font les peintres. Bref, il paraissait satisfait. Sa tournée finie, il demanda qu'on lui présentât François Bonvin. « Vous êtes un maître, déclara-t-il. Il y a dans vos tableaux une saveur flamande, très, très flamande. Vous êtes un maître flamand. Pardon, interrompit le bonhomme, je suis de Montrouge. » Monsieur Turquet s'inclina, et il allait se retirer quand ses yeux s'arrêtèrent sur la boutonnière du vieux peintre. « Comment ? Vous n'êtes que chevalier ? C'est une injustice. Un vieux maître comme vous ? un sous-secrétaire d'État comme moi, Monsieur Bonvin ? » Il prit un air très grave. « Monsieur Bonvin, demain, à 3 heures, j'accompagnerai Monsieur le Président de la République à votre exposition. Il verra tout ça. Je lui dirai, c'est un vieux maître, et vous recevrez la croix d'officier, à 3 heures. » Le lendemain, Bonvin fut exact au rendez-vous, mais il attendit vainement. Aucun n'apparut, ni de Monsieur Turquet, ni de Monsieur le Président de la République. La nuit vint, les portes se fermèrent, et le vieil artiste tristement s'en alla. Depuis lors, il n'entendit jamais plus parler de M. Turquet. Plus tard, un ami du peintre se rendit dans le cabinet du sous-secrétaire d'État et lui rappela sa promesse. Celui-ci avait réfléchi. Il s'était dit qu'il serait bien inutile de troubler les derniers jours d'un grand artiste en le décorant. « Je lui ferai une vaste commande, » promit-il. « Mais il est aveugle, paralysé, il ne travaille plus. « Alors je la ferai à mon gendre. » Et comme l'ami insistait, M. Turquet le congédia du regard, d'un regard qui voulait dire « Un mot de plus, et je lui fais enlever sa croix de chevalier. » M. Turquet avait raison. Cela ne rime à rien de décorer les artistes. C'est comme si on leur offrait un sabre d'honneur, avec la liste de leurs œuvres et des inscriptions louangeuses gravées sur la lame damasquinée. Et il serait beau, il serait moral que les artistes peintres, sculpteurs, hommes de lettres formassent une ligue contre la Légion d'honneur, une ligue qui n'aurait besoin ni de président honoraire, ni de président en fonction, ni de délégué, ni de gymnaste, ni d'orphéoniste, une ligue dont les manifestations seraient simples et précises. Refuser la croix sans mots sonores, sans gestes de théâtre, non seulement parce qu'on en a fait un abus qui la déconsidère, mais parce qu'elle sert à un usage régulier, quotidien, qui ne regarde en aucune façon les artistes. La croix a été fondée pour les militaires. Elle se plaît sur les uniformes, parmi les buffleteries, les cuivreries, les pompons et les panaches. Mais elle fait piteuse mine sur les vestes d'atelier, parmi les poussières de plâtre, les grattages de palettes et les petits bourbiers noirs où la plume des poètes va piquer le sonnet bleu comme l'azur du ciel, ou rouge comme le sang des douleurs. Figaro, 16 janvier 1888.